Et si jamais tu te demandes, bah c'est fait par Binge Audio.
Mes très chers amis, bienvenue dans notre petit rendez-vous du mardi. Vous le savez, vous avez rendez-vous tous les mardis pour un petit tête-à-tête avec l'un ou l'une de nos chroniqueuses. Chaque semaine, ils et elles font une proposition pour décrire la société dont on rêve. Cette semaine, vous avez rendez-vous avec Marion Dubreuil. Marion, c'est notre Madame Justice. Cette semaine, elle nous propose de supprimer les délais de prescription. Salut Marion.
Salut Judith. Oui, parce que là, vraiment, personne ne s'y retrouve. En France, en tout cas, on n'y comprend plus rien à la prescription, pas même les spécialistes du droit. C'est un millefeuille de dérogations et d'exceptions. Petit rappel quand même, la prescription, c'est la date au-delà duquel il n'est plus possible de juger un délit ou un crime. Et bien sûr, les délais, ils varient en fonction de la gravité de l'infraction. En gros, c'est 6 ans pour un délit, comme un vol, 20 ans pour un crime, c'est-à-dire un viol ou un meurtre, 30 ans quand ce crime est lié au terrorisme, et jusqu'à l'imprescriptibilité pour les crimes contre l'humanité. Bon, jusque-là, c'est plutôt simple. Le point de départ de la prescription, c'est logique, c'est le jour où l'infraction est commise. Eh bien non, pas toujours. En 1989, une loi a décalé le point de départ de la prescription à la majorité des victimes de violences sexuelles dans l'enfance. L'objectif, il est louable, c'est de prendre en compte l'amnésie traumatique. Si l'on garde l'exemple de la répression des violences sexuelles sur mineurs, que je connais bien, en 30 ans, la prescription a varié du simple au triple. Depuis la loi de 2018, la prescription pour viol sur mineurs, c'est 30 ans à compter de la majorité de la victime. C'était 10 ans en 1998. Aujourd'hui, concrètement, un enfant peut déposer plainte contre son agresseur jusqu'à ses 48 ans. Les partisans de la prescription, ils estiment qu'il s'agit d'un principe fondateur du droit. Mais enfin, est-ce que c'est encore vrai quand on voit combien les délais ont été modifiés? Et puis, de 30 ans à l'imprescriptibilité, c'est quoi la différence? Depuis l'affaire Duhamel, les procureurs de la République, ils sont tenus d'ouvrir systématiquement une enquête pour des crimes sexuels sur mineurs, même si les faits paraissent prescrits. C'est la règle pour tous les dossiers. Je pense par exemple à Isabelle, 63 ans. Elle a déposé plainte l'an dernier contre son beau-père pour des viols qui remontent aux années 80. Mais la question que je me pose, c'est au fond, c'est quoi le sens d'arriver à une justice qui enquête sur les faits, mais qui s'estime incapable de poursuivre ? La prescription serait l'équivalent d'un droit à l'oubli. Mais pour qui ? Est-ce qu'en matière d'inceste, comme dans le dossier Duhamel par exemple, les victimes ont seulement l'opportunité d'oublier ? On ne peut pas dire non plus que le temps qui passe est un obstacle insurmontable qui empêche le bon déroulement de l'enquête. Encore moins dans des dossiers qui sont marqués dès la commission des faits par le sceau du secret. Finalement, Olivier Duhamel, il a avoué les attouchements sur son beau-fils, comme Camille Kouchner l'avait dénoncé dans La Familia Grande. Alors oui, il a parlé de relations consenties, mais enfin, tous ceux qui connaissent un peu les violences sexuelles savent que c'est toujours l'argument des agresseurs. La prescription pourrait jouer sur la mécanique des aveux, nous disent certains. C'est parce que les agresseurs savent qu'ils vont finalement échapper à la sanction que certains passent aux aveux. Du coup, il faudrait pouvoir miser sur le sentiment d'impunité des auteurs pour obtenir la reconnaissance d'une infraction sans pouvoir la poursuivre après. Enfin, c'est kafkaïen. La réalité, c'est que notre société tolère de moins en moins l'impunité. Et du coup, la prescription, elle pose question. Ses partisans la justifient au nom du dépérissement des preuves. Avec le temps, les témoins disparaissent, leur mémoire vacille, les CD sont mal conservés, voire carrément détruits. Mais parfois, le temps qui passe permet aussi de profiter d'une évolution scientifique, l'ADN par exemple. Il y a 15 ans, on avait besoin d'une grosse goutte de sang, de sperme ou de salive. Aujourd'hui, une seule cellule suffit pour confondre un meurtrier. Les enquêteurs peuvent aussi travailler sur l'ADN de parentèle, c'est-à-dire l'ADN d'une même lignée familiale. Ça a permis par exemple de résoudre l'enquête sur la mort d'Élodie Kulik, violée et assassinée en 2002. Le meurtrier a été retrouvé via l'ADN de son père 10 ans plus tard. Aujourd'hui, surtout, il est quasiment impossible de prétendre qu'un délai expiré ne peut jamais être rouvert. Dans les affaires criminelles les plus graves, il y a quasi systématiquement des actes interruptif de la prescription. Ah oui, je vous l'avais pas dit, la prescription peut être repoussée par des actes d'enquête, ce qui explique, par exemple, qu'en France, on travaille encore sur des cold cases. Et la prescription ne résiste pas à la loi des séries. Lutter contre la prescription, c'est la spécialité de Didier Seban et Corinne Hermann, deux avocats qui ont imprimé leur marque dans des dossiers emblématiques, comme Michel Fourniret, Les Disparus de la 26, et plus récemment Le Grelet. C'est grâce à leur ténacité que Michel Fourniret, surnommé l'ogre des Ardennes, a finalement été condamné pour le meurtre de Farida Hamish 30 ans après les faits. Grâce à eux aussi qu'un ouvrier impliqué dans plusieurs meurtres a été mis en examen pour le meurtre de Christelle Houdin 34 ans après la mort de l'adolescente de 13 ans. Le procès n'a toujours pas eu lieu. L'une des vertus de la prescription serait de ne pas donner de faux espoirs aux victimes. Enfin, quand on voit les délais de fonctionnement de la justice, comment notre société peut-elle encore s'abriter derrière un délai de prescription censé apaiser la société et empêcher le désir de vengeance ?
Bien d'accord avec toi, ma chère Marion. Nous, on se retrouve ce vendredi, mes chers amis. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous réécouter. Tous nos épisodes, eux aussi, sont imprescriptibles. À vendredi.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi ? Qui étaient ces disparus ? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée ? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.